Voilà. Eh bien, écoutez, comme le temps avance, nous allons commencer dès maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Voilà, il y a encore des places ici. Installez-vous. Je vous rappelle, avant de commencer cette nouvelle séance, d'abord, certains arrivent en se demandant s'ils ont le droit de s'intégrer. Évidemment, c'est tout à fait ouvert, hein, ne vous inquiétez pas. S'il y en a qui n'ont, si vous voyez d'autres personnes qui disent « mais je n'ai pas encore suivi la Bible », on peut rejoindre. J'essaye de faire de telle sorte que chaque séance présente une unité, donc on peut rejoindre en cours de route, il n'y a pas de souci. L'idée pour moi, c'est ce sur quoi j'insisterai, c'est que si vous venez ici, le but, c'est quand même de lire l'Écriture. Je vous encourage à le faire. J'allais dire, c'est presque plus important que ce que nous faisons le lundi soir, c'est de lire l'Écriture. Et c'est toujours mieux de voir pour voir la logique d'ensemble. Donc la chose la plus importante, c'est cette lecture personnelle que vous pouvez rattraper si vous venez de nous rejoindre. Vous prenez votre Bible et vous lisez l'Évangile. Il y a un plan avec des indications bibliographiques. Je vous avais donné cette feuille à la première séance et je l'ai complétée depuis. Voilà. La dernière fois, je vous l'avais dit, mais je ne sais pas si tout le monde avait entendu. Donc, il restait une dizaine de feuilles. Je vous laisse faire passer. Voilà, il y a deux ou trois titres en plus, je crois, par rapport à la première fois. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la troisième rencontre, c'est les noces de Cana. Comme je l'avais dit lors de la première rencontre, je prends des passages généralement narratifs qui sont plus faciles d'accès. C'est un peu une facilité et pour celui qui parle et pour l'auditoire parce que ce qu'on appelle les discours demandent une étude beaucoup plus approfondie, enfin, qui présente des difficultés techniques, j'allais dire. Voilà, le critère n'est pas, vous me direz, n'est pas très scientifique, mais Saint Jean présente une telle unité que j'espère qu'en prenant certains passages, nous arrivons à avoir une vision de l'ensemble de l'Évangile. Voilà, vous vous souvenez la dernière fois, la question. Alors, voilà, c'est les feuilles volantes. Il n'y a pas assez de feuilles ? Des feuilles de quoi ? De quoi ? Là, ça y est, ce qu'il faut ?
Celle-là.
Ah non, là il n'y en a pas assez, d'accord.
Non, non, tout ce qu'on a là.
Mais si, il y en a ici, il y en a plein, mais
où sont-elles ?
Il suffit de les prendre à la fin du cours. Hein. On n'a pas besoin. Ça, en revanche, on en a besoin.
Mais tout le monde là.
D'accord.
On ne va pas déranger Pierre.
Pardon.
Quel souci ? Alors, voilà. Vous vous souvenez de la première rencontre où nous avons vu, j'allais dire d'un point de vue narratif, cet élément important, Jean qui désigne Jésus en disant « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». Donc Jésus est manifesté, hein, ce que dit Jean, il s'agit de le manifester à Israël. Jusqu'à présent, c'était les 30 années, comme nous dit Saint Luc, de vie cachée. Et là, Jésus va commencer son ministère public avec deux scènes qui sont un peu comme deux volets de cette manifestation, un volet intime qui est celui des noces de Cana, le deuxième volet c'est les vendeurs chassés du temple, et non pas les chasseurs vendus du temple, que à chaque fois je me trompe. Voilà. Que les gens présentent comme une sainte colère de la part de Jésus. Alors je regrette de ne pas faire de cours sur les vendeurs chassés du temple, parce que ça m'aurait donné l'occasion, alors je le fais maintenant, de dire que Jésus ne se met pas en colère, il pose un geste prophétique. La colère de Jésus, il en est question une seule fois dans tous les évangiles, c'est chez saint Marc, quand il voit la dureté des pharisiens, mais Jésus ne se met pas en colère au temple, il se manifeste comme celui qui vient purifier le temple, et ça, de fait, c'est un thème qui est important chez saint Jean. Mais là, nous prenons le premier volet, qui est, comme on le dit, j'ai employé un gros mot en littérature, ce qu'on appelle une prolepse, ça veut dire une sorte de point de départ, des mots, des paroles qui vont engager la suite, qui vont demander une réponse. On peut dire que les noces de Cana, c'est comme une prolepse, comme un discours programmatique, comme une ouverture du ministère public de Jésus. D'ailleurs, saint Jean conclut en disant bien que ce signe que Jésus va faire, que Jésus a fait, en appelle d'autres. Voilà, quatre moments de notre lecture. D'abord, la situation, c'est les versets 1 et 2 principalement. Le dialogue entre Jésus et sa mère et puis les serviteurs. Ensuite, l'événement lui-même, ce qu'on appelle le miracle, et la conclusion qui permet de qualifier l'événement. Que s'est-il passé exactement ? Tout d'abord, la situation. Alors, Jésus, invité à des noces, il répond à une invitation. Il semble, en lisant le texte, ça c'est très intéressant, que Marie ait été invitée en priorité. On voit que Jésus émerge progressivement de cet anonymat. C'est Marie a encore le premier rang. Jésus est invité. Il fut lui aussi invité. Voilà, à Cana, le lieu est très intéressant. Cana est un petit bourg. Vous savez qu'il y a deux ou trois lieux en compétition, comme très souvent en Terre Sainte, pour savoir quel est le lieu où sont passés les événements. On pense à Cana, qui est un gros bourg. Maintenant, c'est devenu une ville avec plusieurs milliers d'habitants, mais à quelques kilomètres de Nazareth. Ça s'est fait en même pas une heure. Et on peut deviner très bien encore aujourd'hui le cadre qui était celui de la vie de Jésus en Galilée avant son baptême. Alors si je vous dis cela, c'est pas pour faire une évocation bucolique, mais parce que ça nous dit quelque chose d'intéressant sur l'incarnation, qui est peut-être davantage marquée dans les synoptiques et encore chez saint Marc particulièrement, c'est le fait que Jésus veut participer aux événements de la vie humaine. De façon très concrète, c'est une spiritualité qui était beaucoup développée dans les années 50, 40, la période, le milieu du XXe siècle, toute la spiritualité qui s'est inspirée du père de Foucault. Voilà, Jésus s'est mêlé à la vie des hommes, à leur joie, à leur peine. Je vous ai mis quelques références, l'histoire de la fille de Jaïr, voilà, qui est mourante, il rentre dans la maison, mais il participe également à des repas, il participe à des moments de fête. Voilà, c'est Cana, c'est typiquement un de ces récits qui nous ramène à la réalité de ce que Jésus a voulu vivre. Et là, je pense qu'il y a une piste d'un point de vue spirituel, mais aussi théologique, qui est intéressante, même si ce n'est pas ce qui ressort le plus dans le texte, comme vous allez le voir. Un petit point aussi sur les disciples. Alors, c'est un peu une question que posent certains exégètes. Ils disent, mais le groupe des disciples n'est pas encore complètement constitué. On n'a pas encore les 12. Saint Jean insiste moins que ne le fait Saint Luc, par exemple, sur le rôle des apôtres. Ça viendra ensuite. Mais on l'a déjà vu avec Nathanaël, qui, vous savez, le moment où Nathanaël dit de Nazareth, que peut-il sortir quelque chose de bon? C'est juste avant. Il y a eu l'appel de Simon, d'André, qui était au bord du lac. Donc Jésus est déjà avec ce petit groupe avec lequel il a lié son sort et qui va l'accompagner pendant toute son existence. On pourrait faire un cours complet sur la place des disciples dans les évangiles. Leur rôle est évidemment fondamental. Voilà. Alors, des exégètes ont essayé d'imaginer comment la scène avait pu se passer. Marie vient de Nazareth. Cana est sur la route qui va de Nazareth au lac. Jésus, lui, arrive des bords du lac à Capharnaüm, où d'après saint Matthieu, il s'est installé. D'ailleurs, à la fin du récit, on nous dit que Jésus part avec sa mère et les disciples à Capharnaüm, parce que, saint Jean nous l'apprendra un peu plus loin, la famille de Jésus s'y est installée. Voilà, donc les choses, j'allais dire, sont très cohérentes au niveau géographique, historique, et c'est très important. Hein, chez Saint Jean, je vous le disais à la première séance, la première rencontre, Saint Jean n'est pas un évangile gnostique, vous savez, avec des discours, des considérations un peu abstraites. Saint Jean donne beaucoup d'importance à l'histoire. Hein, les évangiles, y compris celui de Saint Jean, nous ramènent à une histoire tout à fait repérable. Hein, et d'ailleurs, même sur le plan chronologique, on dit que Saint Jean est quelquefois plus fiable que les autres. La géographie a beaucoup d'importance. Et là, elle est parfaitement cohérente. Elle est parfaitement cohérente. Voilà. Alors, maintenant que le cadre est posé, nous entrons dans l'événement lui-même. Tout d'abord, le dialogue. Le dialogue qui va partir d'un événement, il n'y a pas de vin. Voilà, la fête est compromise. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de longues explications. Un mariage où il n'y a pas de vin, quoique maintenant, des trucs très à la mode, on fait des trucs écolos, ou je pense que le vin est très écolo. Hein, vegan. Vegan, oui, c'est vegan. Ah oui, vegan, je pense que tout le monde fait comme ça. Hein, parce qu'on boit le vent, c'est ça. Voilà. C'est le genre de mariage que je ne célébrerai jamais. Jamais. Voilà, ça c'est certain. Voilà, mais en tout cas, le thème est surtout dans ce pays-là, mais ce serait pareil chez nous, chez les Gaulois, hein, une fête sans vin. C'est là qu'on dit que l'évangile a été fait pour nous, hein, Gaulois. Une fête sans vin, c'est quelque chose évidemment qui ne va pas. Hein. Alors c'est intéressant de voir le rôle de Marie. Là aussi, c'est une piste qu'on pourrait explorer davantage. Marie vient délicatement voir Jésus en lui disant « ils n'ont pas de vin ». Beaucoup de choses à dire, beaucoup de commentaires ont été faits. Pourquoi cette discrétion? Est-ce que c'est pas elle la maîtresse de maison? Donc c'est un peu gênant de dire « tiens, il n'y a pas de vin ». Vous savez, voilà, alors évidemment, c'est maîtresse de maison, on va dire « oui, d'accord », mais enfin, bon, voilà. D'autres feront remarquer, les commentateurs, qu'on reconnaît là toute la subtilité féminine. Hein, qui fait que pour qu'un homme fasse quelque chose, il ne faut pas lui dire « chérie, il faut que tu fasses ça », c'est « voilà, on fait juste une petite remarque, bien placée au bon moment ». Voilà. Et Marie, avec cette délicatesse féminine, sait qu'elle va obtenir ce qu'elle veut de Jésus. Voilà, vous pouvez l'interpréter de la manière que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que Marie, j'allais dire de façon peut-être plus profonde, providentielle, c'est que quelle est sa place dans l'histoire du salut. Saint Luc nous dit beaucoup plus de choses sur la Vierge Marie, Jean en dit très peu. On va voir de quelle manière Saint Jean parle très peu de la Vierge Marie, mais là on voit bien que Marie est vraiment à sa place, elle intervient là où elle doit intervenir, mais elle ne prend pas la place de Jésus. Hein, elle est vraiment la servante, comme le dit Saint Luc. Et tout va se jouer précisément dans cette relation entre Marie et Jésus. Marie, qui n'est pas appelée par son prénom, mais par le titre de mère de Jésus. Alors ça, c'est un indice très intéressant. Hein, tout se joue entre Marie et Jésus, c'est-à-dire dans sa maternité, la question de la maternité. Hein, c'est par elle que Jésus est venu au monde, et c'est par sa parole que la parole de Jésus va pouvoir être entendue. Hein, c'est la parole de Marie envers Jésus qui fait que Jésus va intervenir. Hein. Il faut comprendre que Saint Jean pointe notre attention sur ce rapport. Hein, je dis bien le rapport entre Jésus et Marie. Non pas qui est Marie et est-ce que Jésus est poli avec elle, mais elle est dans un rapport avec Jésus. Il y a quelque chose de théologique. Quand Jésus lui dit « Que me veux-tu, femme ?», évidemment, au premier abord, là aussi, si on essaye d'avoir une lecture assez pratique, assez immédiate, on va dire que c'est une manière assez inhabituelle pour un fils de répondre à sa mère. Je sais bien qu'un garçon de 14 ans est capable de toutes les audaces, hein, les moments les meilleurs de l'adolescence. Les mamans en savent quelque chose. Hein, « Que me veux-tu, femme ?» Voilà, évidemment, mais c'est pas tout. Jésus n'est plus un adolescent, et quand il parle, ce n'est pas tout à fait au hasard. C'est pour ça que je suis toujours un peu gêné hein, dans ses commentaires, qui en reste à ce premier niveau en disant « brutalité de Jésus vis-à-vis de sa mère ». Jésus n'est absolument pas brutal vis-à-vis de sa mère. L'expression « femme » pour Jésus, chez Saint Jean, il y a un niveau de lecture qui est immédiatement théologique et il faut le comprendre de cette manière. Hein, on peut imaginer le respect, la gravité que Jésus est capable de mettre dans certaines paroles. Tout dépend de la manière dont on lit le texte. Hein. Jésus dit « femme » avec, je pense, toute la gravité, le respect qu'il faut. Hein, et on retrouvera cette même manière d'appeler sa mère quand Jésus sera sur la croix « femme » voici ton fils. Et on voit bien que là, il y a un sens extrêmement fort. Hein, le seul moment dans la Bible où on voit le mot femme mis en avant de cette manière, c'est Genèse chapitre 2 et chapitre 3, hein, quand Adam voit Ève, elle est par excellence la femme. Hein, voilà. Ce sont les deux moments où Marie apparaît dans l'Évangile et c'est très significatif. Hein, Jean ne cite pas le nom de Marie, il n'y a pas le nom de Marie, la mère de Jésus. Hein, elle est la mère de Jésus. Hein, elle est la mère et elle est la femme. La mère de Jésus, parce que par elle, Jésus vient dans le monde, mais elle est la femme, parce que par excellence, elle figure cette humanité, ce que, comme disait le pape Jean-Paul II, l'humanité qui est féminine, c'est cette figure de la place de la femme dans le monde, qui se concentre sur la figure de Marie. Il y a dans l'imposition de ce nom de la part d'Adam à Marie, d'Adam à Ève, pardon, quelque chose de solennel, hein, même solennité quand Jésus appelle sa mère femme. Voilà, la femme est la mère de Jésus et on apprendra aussi la mère de tous les vivants hein, quand Jésus confiera Jean à Marie. L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère des vivants. Hein. Elle est la femme par excellence, celle qui porte la vie, celle qui donne la vie, celle qui fut la mère des vivants. Ce n'est pas un hasard si la théologie appellera Marie la nouvelle Ève. Voilà, donc faisons attention, là, c'est une petite indication sur la manière de lire l'évangile de Saint Jean, une petite parenthèse comme j'en fais souvent, mais attention aux lectures trop rapides et quelquefois assez grossières où on fait trop vite le rapprochement avec la situation qui est la nôtre. Hein, on voit bien que des paroles un peu surprenantes sont plutôt des indices qui nous poussent à aller regarder dans l'Ancien Testament ou de comprendre le sens par rapport à l'ensemble du texte. La deuxième réaction un peu étonnante de Jésus vis-à-vis de sa mère, quand elle lui dit « il n'y a pas de vin », avec cette capacité de suggérer, hein, « mon heure n'est pas encore venue ». Alors, certains sont arrivés, « mon heure n'est pas venue », certains n'ont pas de feuilles. Vous voyez, il y a le manque de vin et le manque de feuilles. Voilà. Est-ce que ça va? Il y en a d'autres qui n'ont pas. Qui d'autre n'a pas de feuilles? Ah ben voilà. Voilà, mon heure n'est pas encore venue. Le dialogue entre Jésus et sa mère immédiatement situe la scène dans la perspective de l'heure. J'avais évoqué l'heure lors de notre première rencontre. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Voilà, vous vous souvenez, les deux parties de Saint Jean, il y a ce qu'on appelle le livre de l'heure, et le livre des signes et le livre de l'heure. Le livre des signes, c'est Jésus fait des signes pour que les gens croient et soient disposés à participer, à reconnaître ce qui se passe dans la Passion. Et la Passion est introduite au début du chapitre 13, quand Jésus dit, quand l'heure fut venue de passer de ce monde à son Père. De même que la première partie se conclut sur la question des signes et de la foi qui manque, des gens qui n'ont pas la foi, eh bien, la deuxième partie s'ouvre sur l'heure dans laquelle Jésus est en train d'entrer. Quand l'heure fut venue de passer de ce monde à son Père. Voilà. Mon heure n'est pas encore venue, ça veut dire on est dans le temps des signes, et quand l'heure viendra, ce sera le moment du passage hein, au Père, du passage, mais pour l'instant, je ne suis pas encore dans ce passage. Ça veut dire que ce qui va s'accomplir est comme une figure, une annonce. Hein, on va le voir. Il y a une annonce de ce qui se passera quand l'heure arrivera. On est dans le temps des signes. Voilà. Alors là aussi, oui, vous verrez des commentateurs qui vous disent, qui mettent la phrase dans un sens interrogatif, « mon heure n'est-elle pas venue ?» hein. Mais ça ne correspond ni, je pense, véritablement au texte, ni au sens du texte. En d'autres lieux, on verra le terme d'heure qui arrive à des moments très précis, montre que on est dans un temps de préparation et d'attente. l'événement lui-même, ce que l'on appelle le miracle. Je vous rappelle que le terme de miracle est absent de saint Jean, mais par facilité, nous employons quand même le terme. Premier point, c'est l'intervention de Marie, comme je vous le disais, qui va faire démarrer le récit. Marie est intervenue auprès de Jésus maintenant. Elle va vers les serviteurs en leur demandant un acte d'obéissance. Faites ce qu'il vous dira. Alors, c'est intéressant de voir comment les serviteurs réalisent exactement ce que demande Jésus. Donc le thème de l'obéissance est tout à fait présent. Jésus donne à deux reprises un ordre, et à deux reprises, les serviteurs font ce que Jésus demande. Jésus leur dit « remplissez », ils les remplirent. Il leur dit « portez-en », ils lui emportèrent. Vous voyez, vraiment une sorte de parallélisme. Et c'est là, à ce moment-là, que le maître du repas peut goûter l'eau changée en vin. Alors, que s'est-il passé? À quel moment avons-nous vu le miracle s'accomplir? Eh bien, en fait, personne n'a vu le miracle s'accomplir. Le récit ne dit rien. Le miracle, on ne voit pas comment il s'est accompli. Et pourtant, il s'est accompli. Voilà. On voit Jésus, à certains moments, intervenir directement dans des miracles. J'en évoque quelques-uns, mais quand il y a un lépreux qui se présente devant Jésus, Jésus touche le lépreux et le lépreux est purifié. Il y a le moment où l'aveugle, Jésus, évidemment ça nous a tous marqué quand on était enfant, il a pris de la salive, il a mélangé avec de la terre, il a fait de la boue. Très très intéressant sur le plan de la signification, mais c'est marquant. Donc vraiment, il y a quelque chose de très charnel, de très concret dans ce miracle. Et c'est là que l'aveugle, en allant se laver avec de l'eau, voit. De la même manière, devant le tombeau de Lazare, on voit Jésus directement dire « Lazare, sors !» Et Lazare sort. Or là, il a demandé aux serviteurs de remplir les jarres. Quand il a dit ça, il n'y a pas de miracle. Donc c'est les serviteurs qui vont, en obéissant, permettre que le miracle soit accompli. Je ne dis pas que c'est eux qui l'ont accompli, parce que ils ne font que puiser de l'eau. Voilà. On ne voit pas l'eau transformée en vin. Le vin apparaît dans la coupe du maître du repas. On peut le constater. Le miracle est constaté. Ça, c'est très très important, par rapport aux signes que Jésus accomplit. Nous voudrions que les miracles soient visibles. Nous voudrions, et ça c'est une loi qui vaut encore aujourd'hui, qui valait déjà dans l'Ancien Testament. Quand Naaman, le Syrien, vient pour se faire guérir, quand on lui dit « tu vas aller te baigner dans le Jourdain », il se met en colère, il dit « je pensais que tu bougerais les mains au-dessus de moi en invoquant je ne sais pas quel esprit, vous savez, des trucs un peu visibles, un peu spectaculaires ». Et on lui demande d'obéir à une parole. C'est déjà un peu la préfiguration, déjà une annonce. Il est énervé de ça. Mais voyez, c'est une tentation spirituelle pour nous aussi. On voudrait que le Seigneur, de façon visible, intervienne. D'une manière, on dit, ah c'est bon, le Seigneur a fait un peu comme on l'attendait de la part du Seigneur. C'est quand même le Seigneur. Donc qu'il fasse quelque chose, qu'on le voit un peu faire. Enfin, nous voyons le résultat. Mais ce que fait le Seigneur, c'est dans la foi. Nous devons le reconnaître et pas simplement avec une manière purement humaine. Le maître de ce repas le dit, il ne sait pas d'où vient le vin. Il ne sait pas d'où vient le vin. Ça, c'est un terme, un potène en grec. Ce d'où vient le vin, évidemment, le lecteur le sait, mais ceux qui sont dans la fête ne le savent pas. Parce qu'ils n'ont pas Saint Jean pour le leur dire. Ce d'où, finalement, il renvoie à la mystérieuse identité du Christ, cachée aux yeux des hommes. Je vous ai mis plusieurs références, et je pense ne pas les avoir toutes mises, mais ce thème revient assez souvent. Quand Pilate dit à Jésus, « D'où es-tu » Quand les gens disent, « Mais nous savons d'où il est de Nazareth. » Mais évidemment, Saint Jean nous a montré qu'il n'est pas de Nazareth, qu'il vient d'auprès du Père. Et puis on l'a à propos de la Samaritaine, on l'a à propos de « D'où l'as-tu, cette eau vive ?» Saint Jean nous apprend, mais il faut lire l'Évangile, nous apprend que cette eau vive, c'est le don de l'Esprit-Saint que le Père fera. Et on peut continuer les autres exemples. Voilà. L'obéissance des serviteurs a été l'agent du miracle, Hein, eux seuls, finalement, savent d'où vient le vin, mais pour savoir d'où vient le vin, il a fallu qu'ils posent un acte de foi. Seul celui qui pose un acte de foi est capable de comprendre la puissance de Dieu. On ne peut pas en parler de l'extérieur. J'aime beaucoup les journalistes, il y en a peut-être parmi nous, les journalistes, ils raconteront les choses comme on les a vues, mais ils diront, mais on n'a pas vu exactement celui qui était en train d'agir. D'accord ? Mais celui qui, lui, a participé à l'événement, par sa foi, il est capable d'attester qu'il y a un acte de puissance qui a été accompli. Hein, voilà. C'est l'intervention des serviteurs, c'est aussi l'intervention de Marie, hein, qui est allée voir Jésus en disant « ils n'ont plus de vin » et ensuite en disant « faites ce qu'il vous dira ». Voilà, l'intervention de Marie, l'obéissance des serviteurs, hein, nous retrouverons un binôme parallèle au pied de la croix, Marie avec le disciple, de la même manière que là nous avons Marie avec le serviteur. On peut dire qu'il y a là comme une figure de l'Église, hein, qui est là pour vivre cette obéissance, pour permettre au Seigneur d'accomplir encore aujourd'hui le miracle. Ce n'est pas l'Église qui fait le miracle, mais par la parole de l'Église, par son intervention, elle participe à cette œuvre, hein, et ça passe par la foi. Hein, c'est bien Jésus qui est lui-même qui donne ce dynamisme, cette fécondité, cette réalité, mais il passe à travers la foi de Marie, la foi des disciples, la foi des serviteurs. Ça va ? Tout le monde, vous êtes pas, on n'est pas trop perdu dans des chemins trop éloignés. Alors, un autre point, évidemment, qui nous met au cœur du récit. Si l'intervention de Marie et l'intervention des serviteurs a été décisive, évidemment, comme nous venons de le dire, c'est bien de Jésus que vient le vin et tout ce qu'il signifie. Chez Saint Jean, il y a comme une saturation, j'emploie le terme de saturation, il y a comme une sorte de plénitude. Les mots, les termes sont gonflés de toute une richesse de signification qui très souvent est celle de l'Ancien Testament. On peut dire que dans ces textes de l'Ancien Testament, il y a trois aspects qu'on peut relever par rapport au vin. Et que si le miracle porte sur l'eau changée en vin, cela veut vraiment dire quelque chose qui nous est possible de comprendre. Tout d'abord, la question de la joie des noces. J'ai fait un peu référence au début. Jésus donne le vin alors qu'il n'y en avait plus. Il n'y a pas de vin, et ensuite, eh bien, ils goûtèrent le vin. Pas de fête joyeuse s'il n'y a pas de vin. Le vin, dans l'Ancien Testament, est lié à la joie de l'amour, le cantique des cantiques. On dit que tes amours sont meilleurs que le vin. Voilà, puis il y a encore d'autres passages. Et chez les prophètes, le vin alors est très 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 présent. Quand le Seigneur annonce à Israël qu'il va le restaurer, qu'il va lui redonner sa splendeur première, avec déjà une visée un peu eschatologique, eh bien, il y a toujours le vin qui accompagne cette promesse de restauration. Deuxième aspect qui est marquant dans ce récit, c'est l'abondance. Il y a une abondance. Alors là, j'ai renoncé à vous donner le chiffre absolu et parfait. Je vous ai donné l'exemple donné par un exégète qui part de Flavius Josèphe, vous savez, l'historien. Mais vous verrez, je me suis rendu compte après avoir écrit ça, en lisant d'autres commentaires, que la plupart donnaient des trucs, des calculs du style 500 litres, 600 litres, 700 litres. Voilà, vous avez peut-être vu ça, visiblement certains ont vu. C'est plutôt sympa quand même. Voilà, 600 litres, 700 litres de bon vin. Hein, pardon ?
C'est abondant.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'abondance. Je suis assez d'accord. Vous imaginez que dans votre cas, vous vous retrouvez avec 700 litres d'un vin et d'un bon. Voilà. Vous ne savez déjà pas comment vous allez pouvoir écouler. Enfin, si, vous le savez. Voilà. C'est exactement ça. Le récit joue dessus. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Mais c'est en relisant aussi les notes, je me disais 6 jars de 40 litres. En fait, ce que nous voyons à Cana aujourd'hui, parce qu'on voit des grandes cuves, c'est beaucoup plus que 40 litres. Je pense que l'option haute est possible. Voilà. Donc voilà, mettons minimum 240 litres de vin, ce qui est déjà considérable. Dans l'évangile selon Saint Jean, il y a 3 miracles de prodigalité, d'abondance. 3 miracles de prodigalité. Il y a Cana. Il y a la multiplication des pains. Alors là, il y a une grosse insistance sur « tous furent rassasiés » et à la fin, il en resta et on ramasse 12 couffins. 12, c'est la plénitude. Enfin, vraiment, l'idée de l'abondance. Hein. Et puis, la pêche miraculeuse. Hein, chez Saint-Luc, la pêche miraculeuse, il y a tellement de poissons que les filets craquent. Hein. Chez Saint-Jean, Jean va jouer dessus en disant « il y avait énormément de poissons et pourtant, le filet ne se déchira pas ». Mais c'est quand même toujours cette idée de grande abondance, Saint-Jean le dit explicitement. Voilà. Quand Dieu donne à ceux qui manquent, c'est toujours à satiété. Hein, toujours, c'est l'expression de l'Exode à propos de la manne, hein, vous aurez à manger à satiété, hein, Exode 16. Hein. Il y a aussi l'image qui est très jolie de Élie chez la veuve de Sarepta. Hein, il donne de l'huile, Sarepta c'est du côté du Liban, hein, Sarepta, c'est quand on monte vers les montagnes, eh bien, jarre ne s'épuisa pas, hein, jarre d'huile et puis, je ne sais pas quoi, non, c'est jarre de farine et pichet d'huile ne s'épuisèrent pas, voilà, jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse ce qu'il avait promis. Hein. Dieu donne en abondance. Dans les psaumes, l'abondance, c'est le signe de la bénédiction donnée par Dieu. Voilà, le Seigneur est mon berger, il me mène vers les eaux abondantes, etc. Le Seigneur bénit son peuple, hein, il lui accorde la paix en abondance, etc. Et enfin, la qualité, Jésus offre un bon vin, hein, jusqu'à la fin du repas. Hein. Ici, le terme de bon a presque le sens de meilleur. Hein, si le bon vin, à la fin du repas, s'oppose à celui qui est servi au début. La difficulté étant grammaticale, est-ce que Marie dit ils n'ont pas de bon vin, ils n'ont pas de vin, pardon, ou ils n'ont plus de vin. Voilà, hein, je n'ai pas abordé ce sujet. Mais s'il y avait du vin au début du repas, on peut imaginer que c'est le cas. Dans ce cas-là, c'est ils n'ont plus de vin. Dans ce cas-là, le vin, bon vin qui a été gardé à la fin, ça veut dire le vin meilleur. Et là, cette idée d'un vin meilleur ou d'un bon vin, pas simplement le vin, comme je vous ai donné dans les premières références, hein, la joie des noces, voilà. Là, c'est le bon vin, hein, un vin de bonne qualité. Ça apparaît dans Isaïe 25, un texte que je vous recommande de bien connaître parce qu'il est très important. C'est l'annonce du festin messianique, hein, le Seigneur qui préparera pour tous les peuples un festin de viande grasse et de vin capiteux, hein, des plats délicieux et des vins décantés. À m'expliquer ce que c'est que des vins décantés, mais je devine que c'est très flatteur. Voilà. Le miracle de Cana, en d'autres termes, annonce une joie messianique, celle de l'Alliance nouvelle. Voilà. Jésus inaugure de cette manière-là, à travers le vin que le maître du repas et les époux peuvent goûter, et après eux les apôtres, eh bien, il inaugure cette joie messianique. Il reprend tout le thème des promesses messianiques de l'Ancien Testament, mais là, cette fois-ci, le mot « goûter » a de l'importance parce qu'il s'agit de quelque chose de réel, quelque chose qui est en acte et pas simplement une figure. Troisième aspect assez marquant, alors je me souviens au mois de juin, au retour du pèlerinage de Vézelay, en avoir discuté avec quelques pèlerins de la route rouge, de pèlerins de la route, enfin de diverses routes, hein, qui étaient un peu étonnés d'une lecture que je vais vous proposer, mais qu'il me semble assez juste. Vous avez remarqué l'absence des époux, on ne les voit pas. Hein, normalement, quand on raconte un mariage, si la première chose qu'on fait, quand sur Internet, on nous envoie les photos, on voit, c'est plutôt bien, des photos des époux. Hein, on est d'accord, quand même eux qui sont au centre. Or ici, les pauvres, ils apparaissent vraiment pas sur la photo. Hein, on ne connaît pas leur nom, on ne les entend pas, on n'a aucune indication sur ce qu'ils font, ni même sur ce qu'ils sont. Alors, on doit plus avoir simplement leur, je sais pas quoi, le nom ou... n'importe quoi d'autre, or rien de tout ça. Hein. On peut imaginer qu'ils habitent le bourg de Cana, hein, c'est logique, au moins l'un des deux, et puis qu'il y a un lien avec la mère de Jésus puisqu'elle a été invitée. Mais on ne peut pas dire grand-chose de plus. Hein. On a juste comme indication un passage où le maître du repas interpelle le marié en lui disant « Tout homme sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Donc, il s'adresse au marié en disant « Tu as gardé le bon vin ». Alors ça, cet indice est très important parce qu'il nous permet de trouver un élément de réponse. Pour donner cette réponse, je vous dis un petit mot sur ce qu'on appelle l'exégèse narrative. Est-ce que certains savent ce que c'est que l'exégèse narrative ? Normal. Voilà. Personne ne lève le doigt, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose d'un peu particulier. Mais vous allez voir comment nous sommes très marqués par une mentalité assez rationaliste, assez inconsciemment, hein, inconsciemment, et qui c'est pas forcément mauvais, hein, mais qui fait qu'on risque de passer à côté de ce que nous dit le texte. Assez spontanément, quand nous lisons un texte évangélique, on le prend comme un document historique, ce qu'il est en partie, hein. Je lis le texte et j'essaye de voir comment les choses se sont passées. Alors on se délecte de lectures qui vont nous permettre de rentrer dans cette réalité historique qui nous intéresse, et nous avons bien raison d'être intéressés. Hein, c'est devenu même un fonds de commerce. Il y a énormément d'écrivains qui s'engouffrent sur cette voie-là et qui disent des choses, disons-le, intéressantes. Hein, on a déjà parlé de Jean-Christian Petit-Fils, hein, quelqu'un pour qui j'ai tout à fait beaucoup d'estime et d'admiration. Je pense qu'il a fait un très très beau travail. Je pense qu'on apprend des choses passionnantes. Voilà, ça participe de cette idée que, eh bien, un peu comme je le faisais tout à l'heure, hein, on dit Cana, où se trouve Cana, quelles étaient les pratiques à l'époque. Bon, on va essayer de. Voilà, le texte nous renvoie à une réalité que nous essayons de connaître. Mais l'essentiel, ça se passe dans cette réalité. Mais le texte lui-même, une fois qu'on a lu le texte, un peu comme on a lu un journal, on a lu les informations, ce qui nous importe, c'est l'événement. Eh bien, l'exégèse narrative fait partie de tout un courant qui s'est développé depuis les années 60, qui s'intéresse au texte lui-même. Non pas que l'histoire n'ait pas d'importance, ou que, qu'elle soit inaccessible. L'histoire est essentielle. L'exégèse, ce qu'on appelle l'exégèse critique, historico-critique, c'est, on va essayer de regarder quels sont les fondements historiques du texte. Et on est toujours dans ce rapport entre le texte et l'événement. Le texte comme une fenêtre sur l'événement. L'exégèse narrative s'intéresse au récit lui-même, à la construction du récit. Au fait qu'il y a un récit et un lecteur. Et que beaucoup de choses vont se jouer dans le rapport entre eux, le récit et le lecteur. J'en ai donné un exemple tout à l'heure. D'où vient le vin ? Le récit lui-même, si on est dans une approche purement positive, positiviste, rationaliste, tout à l'heure je disais rationaliste, j'aurais dû dire positiviste, c'était plus juste. Hein, une approche positiviste, on va dire le vin, dans le texte, c'est pas marqué. Vous êtes le lecteur, hein, l'exégèse narrative développe l'idée que le lecteur est omniscient sur certains points. Puis d'autres points, le lecteur ne sait rien, c'est à l'intérieur. Voilà. Eh bien, vous savez que c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin. Ouais. Là où ça fonctionne le mieux, pour donner une illustration sur l'exégèse narrative, c'est le chapitre 24 de Saint Luc, hein, le récit des disciples d'Emmaüs. Hein, Jésus arrive devant les deux disciples. Et il est ressuscité, vous êtes super content parce que vous entendez ça le jour de Pâques, et le disciple d'Emmaüs, ils font comme ça, ils font une mine comme ça, et ils tombent sur Jésus, puis ils ne le reconnaissent pas. Alors, t'es aussi les imbéciles, franchement les imbéciles. Et alors après, non seulement ils ne comprennent pas, mais quand ils discutent avec Jésus, ils disent à Jésus, dis donc, t'es le seul à ne pas être au courant de ce qui s'est passé. Alors, ils disent, franchement les imbéciles, ils sont complètement nuls. Moi, je suis au courant. Mais là où vous allez être piégé, c'est que vous êtes au courant, vous savez tout. Vous êtes le lecteur omniscient. Et vous les regardez de haut. Vous savez, on est haut par rapport à la Bible. Et eux, ils sont tout petits, ils marchent avec Jésus. Et à la fin, on nous dit, Jésus se mit à leur parler de tout ce qui le concernait dans les Écritures. Puis on a l'impression que la voix s'éloigne et qu'on ne les entend plus. Et on dit, attendez, je suis censé tout savoir et là, je ne sais plus ce que vous vous dites. Moi aussi, je voudrais savoir. Et en fait, on ne sait pas. Parce que c'est ce qui s'est passé entre Jésus et les disciples d'Emmaüs. Et là, le récit fait que le lecteur est... Son intérêt est aiguisé. Et le lecteur dit, quel est le moyen de faire comme les disciples d'Emmaüs ? C'est de relire toutes les Écritures. Qu'est-ce qui concernait ? Je suis entraîné, parce que j'ai été piégé par une stratégie, à faire le même parcours que eux, mais dans ma situation d'aujourd'hui. Je ne suis pas informé simplement sur ce qui se passait à ce moment-là. Voilà. Et eux, la preuve que ça a marché, ce dialogue avec Jésus qui m'a échappé, où là je ne suis plus omniscient, c'est eux qui savent et moi je ne sais plus, eux ont été capables de poser un acte de foi en le reconnaissant dans l'Eucharistie. L'Écriture conduit à reconnaître Jésus dans l'Eucharistie, parce qu'ils se sont laissés toucher par Jésus. Vous voyez, ça c'est typique de ce que l'exégèse narrative va nous montrer. Jean-Christophe Petit-Fils, il va faire son travail, qui est intéressant, mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas le texte lui-même et la stratégie du texte par rapport au lecteur. Revenons à Cana. Le maître du repas s'adresse au marié. Une approche positiviste nous dira, ben, y a bien un marié, une mariée, ils sont bien gentils, Jésus fait son travail, voilà, un peu comme un prophète. En réalité, si on prend le récit de façon honnête, nous ne savons rien du marié. Qui est le marié? La seule chose que nous savons du marié, c'est qu'il a gardé le bon vin jusqu'à présent. Qui a gardé le bon vin jusqu'à présent? Qui a donné le bon vin? C'est Jésus. Le marié, c'est celui qui a donné le bon vin. Jésus, c'est celui qui a donné le bon vin. Jésus, c'est le marié qui va donner la joie de la noce. Le lecteur nous conduit à voir le seul qui est dans la place du marié, c'est Jésus. Et de fait, c'est un point de départ parce que le chapitre suivant, comment Jean-Baptiste va-t-il appeler Jésus? L'époux. Voilà, et Jean-Baptiste est l'ami de l'époux, il entend sa voix. Mais la voix de celui qui a dit « puisez de l'eau et portez-en au maître du repas ». Celui qui apporte la joie. Et évidemment, le chapitre 4 que nous verrons la prochaine fois, hein, qui est absolument passionnant, alors qu'il joue beaucoup sur cette espèce de stratégie narrative, où Jésus apparaît comme véritablement l'époux de la noce. Alors quand j'ai discuté de ça en quart, je me souviens, ça choquait, je ne sais pas s'il y en a qui y étaient, non, au retour de Vézelay, non, il n'y en a pas qui se souviennent de... Enfin, ils étaient très choqués, ils disaient, mais il y avait quand même un époux, c'est quand même pas Jésus qui était le marié, enfin Jésus, il était célibataire. D'accord. Voilà, l'approche bien positiviste, il y a une réalité spirituelle beaucoup plus profonde que le texte nous indique de cette manière. Voilà, Jésus qui apparaît comme l'époux. Alors évidemment, si on pose la question de l'époux, on va se poser la question de l'épouse. Voilà, normal.
Excusez-moi.
Oui.
Le texte est introduit par le troisième jour, il y a eu des noces à Cana. Est-ce que ce troisième jour fait référence au troisième jour aussi de la mort, de la résurrection?
Alors, peut-être qu'on va garder les questions pour la fin, parce que là, brusquement, on revient au début. On va suivre et puis on reviendra si on a un peu de temps. Voilà. Voilà. La question de l'épouse. Il n'y a rien au sujet de l'épouse, pas même une mention comme ce qui concerne l'époux quand il est dit « tu as donné le bon vin ». Hein. Il y a cependant une allusion indirecte, hein, celle du nom que Jésus donne à Marie. Hein, elle est présentée comme la mère de Jésus, mais aussi comme la femme. Or, dans le contexte de Genèse 2, la femme, c'est celle qui est promise pour devenir l'épouse de Adam. Hein. Mais dans l'emploi de Saint Jean, Jean chapitre 2, Jean s'intéresse surtout à la maternité d'Ève. Hein, il se réfère à la maternité d'Ève. Donc, c'est la maternité de Marie. Hein, le thème de l'épouse n'apparaît pas ici. C'est vraiment Jésus lui-même. Hein, c'est le but de c'est de voler de la présentation de Jésus à Cana et ensuite au temple. Hein, c'est la personnalité de Jésus qui importe ici en premier. Alors, la quatrième et dernier chapitre, ce que j'appelle la qualification de l'événement, hein, Jean va nous dire qu'il y a eu un signe. Un signe, ça veut dire que ce n'est pas simplement un événement matériel, historique, au sens positiviste, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est un événement qui appelle une interprétation, qui demande à être qualifié. Hein. Tel fut le premier des signes de Jésus, il l'accomplit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Voilà. Au-delà du récit, Jean nous pousse à comprendre le sens de l'événement. C'est très très important, il y a quelque chose à comprendre. Hein, toute la Bible nous demande de faire un travail avec notre cœur, notre intelligence, cette recherche, hein, la figure, c'est l'eunuque de la reine Candace, hein, qui lit l'écriture et qui dit « comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique ?» Jean intègre ce travail de compréhension dans le corps même du récit, puisqu'il conclut hein, en disant « que c'était un signe et que c'était le premier et que là, Jésus manifesta sa gloire. Tout d'abord, alors je relève deux aspects de cette conclusion de saint Jean. Le premier, c'est Jésus manifesta sa gloire. Voilà. Vous vous souvenez, dans le prologue, il avait été dit que le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Parole assez paradoxale, puisque la chair chez saint Jean, comme chez saint Paul, c'est notre humanité dans son état de fragilité, de faiblesse. Comment peut-on voir la gloire de quelqu'un qui est dans la faiblesse? Le signe de Cana, puisque Jésus y a manifesté sa gloire, nous aide à dissiper l'énigme. La gloire, c'est finalement ce qui se réfère à la puissance de Dieu, la présence de Dieu. La gloire, vous savez qu'en hébreu, c'est kabod. J'aime bien ce jeu entre l'hébreu et le grec. En hébreu, la gloire, c'est la lourdeur. En grec, c'est l'éclat. Le mot kabod, gloire en hébreu, première signification, c'est encore une parenthèse, comme j'en fais souvent, la première signification du mot kabod en hébreu, s'il y a des hébraïsants, c'est le foie. Voilà.
C'est vrai, c'est
arabe. Comme en arabe. Quand on va chez le boucher, je ne sais pas quoi, ça se vend, je crois, le foie de volaille. Bon, je vous dirais une tranche de kabod. Voilà, c'est le foie, c'est ce qui est lourd. Voilà. Alors, kabod, ça a donné la lourdeur, parce que le foie est lourd. Donc c'est déjà un peu plus abstrait, le foie, la lourdeur. Et quand on veut parler de la gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu? Ça veut dire sa densité, c'est-à-dire qu'il a une... Voilà. Nous avons vu sa gloire, ça veut dire Dieu est réellement vivant, il est présent, la gloire. Foi, poids, gloire, l'évolution du terme. En grec, c'est-à-dire qu'on voit toute la pensée grecque, c'est extraordinaire, le terme... Allez, les hellénistes, exprimez-vous, la gloire c'est... Quand on dit la doxologie, parole de gloire, la doxa, mais c'est le terme, le verbe dokein, sembler, ce qui semble. Vous voyez qu'on est pile à l'opposé de la lourdeur. Et au résultat, on a la même chose. En grec, il y a plutôt l'idée de l'éclat, voilà, la majesté, la splendeur. Voilà. Petite parenthèse, nous avons vu sa gloire. Mais c'est important de faire ce petit passage par l'étymologie, parce que ça permet de comprendre... en quoi Jésus manifeste sa gloire? Parce qu'il y a une transformation d'eau en vin, avec une signification Dieu manifeste quelque chose à travers la transformation d'eau en vin, et même un bon vin. Le maître du repas, pas simplement, ça c'est important, saint Jean ne dit pas simplement « il goûta le vin ». Là, je vous prie de faire attention à ce qui est écrit. Il goûta l'eau devenue vin. Goûter l'eau devenue vin, ça veut dire je goûte ce qui était de l'eau et qui maintenant est du vin. Donc j'expérimente une transformation. Je goûte quelque chose de cette action de Dieu. Mais encore une fois, je continue mon explication sur le positivisme. Le positivisme, c'est tu prends du vin. Ce qui est intéressant, c'est que tu prends du vin. Mais si je prends le texte biblique dans sa réalité même, je dis non, c'est pas du vin. C'est de l'eau devenue vin. Ça veut dire que le vin que je goûte, il est le fruit d'une action de Dieu. Il y a une transformation. La gloire de Dieu se manifeste dans cette transformation. Alors, trois types d'interprétations. Le premier nous est fourni par le texte lui-même. C'est le père Simons, l'exégète dont je vous ai déjà parlé, qui fait remarquer que l'eau devenue vin, en fait en grec c'est toudor oinon gegemenon, l'eau vin devenue, c'est exactement la même écriture, la même manière d'écrire que le verbe s'est fait chair. Le verbe chair devenu. Ginomai, ça veut dire devenir. Le verbe est devenu ginomai, chair. L'eau est devenue ginomai, vin. Ça va? Bon, vous êtes d'une patience extraordinaire, parce que je devine qu'il y a beaucoup de choses et que ce n'est pas forcément toujours facile. Mais ça, c'est très. Voilà, ce sont des indices qui ne sont pas du tout au hasard chez saint Jean. Deux phrases construites exactement de la même manière avec le même verbe. Un auteur que j'aime beaucoup, dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle Ephrem de Nisib, dit, à travers l'eau devenue vin, nous avons comme une sorte de réalisation, alors il ne dit pas sacramentelle, mais presque, de ce qui s'est passé dans l'incarnation, le Verbe devenu chair. Pourquoi, comme premier signe, notre Seigneur a-t-il changé l'eau en vin ? C'est pour montrer que Dieu, qui transforme la nature dans les autres, opère aussi sa transformation dans le sein de la Vierge. Contrairement à leur usage, les cuves ont mis au monde un vin nouveau, sans jamais renouveler ensuite cette merveille. C'est ainsi que la Vierge a conçu et mis au monde l'Emmanuel, pour ne plus concevoir ensuite. Voilà. Alors, il développe, je vous donne qu'un passage, mais cette idée de le fait de devenir, qui est le devenir de l'incarnation. Il prolonge cette interprétation dans un autre passage, ça c'est dans le commentaire de l'Évangile concordant. Deuxième interprétation, Jésus inaugure un temps nouveau, il fait entrer dans la nouvelle alliance. Ce qui n'était d'abord que de l'eau fut changé en vin dans les amphores, c'était le symbole du premier commandement amené à la perfection, l'eau transformée, c'était la loi perfectionnée. Voilà. La loi ancienne est représentée par les jarres d'eau. L'eau dans l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse. Jérémie 2, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ou Sirac, Ben Sirac le sage. La loi de Dieu, la parole de Dieu qui est comme un grand fleuve qui va tout irriguer. On a très souvent ce thème de l'eau qui signifie la loi de Moïse. Alors l'eau, c'est bon, la loi de Moïse est bonne, mais elle n'a pas beaucoup de goût. Alors on peut relever aussi que les six jarres, ça des commentateurs disent six jarres, c'est le six, c'est juste avant la perfection du sept. On peut relever aussi que les jarres étaient faites pour les purifications des Juifs. Donc la loi de l'Ancien Testament, c'est l'homme qui va faire des rites de purification. Mais avec Jésus, c'est lui-même qui vient purifier. Il y a à la fois une rupture et une continuité. Rupture parce que ce qui n'était pas advient, il y avait de l'eau, maintenant il y a du vin. Avant Jésus, le peuple se débrouillait avec la loi, mais depuis Jésus, Dieu lui-même a pris notre humanité. Mais en même temps, il y a une continuité. C'est l'eau devenue vin. Donc ça veut dire pour nous chrétiens, nous avons le vin de l'Alliance Nouvelle, le vin des évangiles. Mais la substance, c'est déjà la loi de Moïse. L'évangile, c'est la loi de Moïse relue ou transformée de l'intérieur par Jésus. Est-ce que vous me suivez ? Ça, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental sur la compréhension du sens de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Toute l'exégèse des pères de l'Église est bâtie dessus. Les pères de l'Église lisent l'Ancien Testament. Nous, je m'attaque beaucoup à l'approche positiviste, mais on va dire l'Ancien Testament, c'était avant, c'est passé. Maintenant, il y a Jésus, c'est quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du martionnisme. L'Église a condamné ça. Dire, c'était passé, voilà. C'était bien, il y a eu Moïse, il a aidé le peuple juif, les Juifs, ils ont fait des choses bien. Voilà, ils n'ont pas cru, c'est normal, Dieu les a rejetés, etc. Maintenant, c'est alors le vin nouveau, c'est vraiment Jésus, il arrive, il fait quelque chose de nouveau. Oui, mais c'est l'eau devenue vin. Chère, il n'y aurait pas eu de vin s'il n'y avait pas eu l'eau. Jésus est venu, mais il assume l'héritage d'Israël. Il est né de Marie, la fille de Sion. Myriam Batsion, la fille de Sion. Sa chair, son sang, c'est la chair et le sang d'Israël. Je me réfère à ce que je disais il y a 2 ans. Sa prière, c'est la prière d'Israël. Sur la croix, Jésus prit les psaumes d'Israël. Donc c'est substantiellement la substance d'Israël que Jésus vient renouveler par son offrande. Donc il y a rupture et continuité. Rupture parce qu'il y a une absolue nouveauté. Le Verbe se fait chair, ça c'est quelque chose d'absolument... étonnant, une nouveauté, Dieu se saisit de notre humanité, donc c'est tout le sujet de discussion avec nos frères juifs, qui disent là, on ne peut pas, c'est une discussion théologique, intéressante, même si dans l'Ancien Testament, il y a les éléments qui permettent de le comprendre. Mais en même temps, il y a cette continuité, l'eau devenue vin. Et donc, c'est le sens des Écritures. La Torah de Moïse n'est pas annulée, Jésus l'a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. L'eau va devenir le vin. Voilà. Et la troisième interprétation, l'interprétation eucharistique, Hein, j'allais dire qui, dans une sensibilité chrétienne, évidemment, on y pense. Enfin, je veux dire, on ne peut pas ne pas y penser. Hein. Un commentateur, alors je vais lire d'abord saint Ephrem de Nisibe, hein, l'admirable Ephrem. Hein, « Au désert, notre Seigneur multiplia le pain et à Cana, il changea l'eau en vin. Il leur fit goûter un pain et un vin transitoire pour exciter en eux le désir de son corps et de son sang vivifiant. Hein, » comme je disais tout à l'heure, mon heure n'est pas encore venue, donc ce ne sont que des figures. Mais déjà des figures. Le vin des noces de Cana anticipe l'effusion du sang de Jésus sur la croix où le vin et l'eau sont de nouveau réunis. D'ailleurs, c'est une exégèse juive, très intéressant, un article de Michel Rémaud passionnant qui dit que l'exégèse juive avait toute une réflexion sur le rapport entre l'eau et le vin, et l'eau et le sang. Hein, le thème de l'eau et du sang préfiguré par l'eau et le vin. Le sang de Jésus préfiguré par le vin. Hein, sur la croix, il y a l'eau et le sang qui coulent du côté de Jésus. Hein, de même qu'à Cana, il a transformé l'eau en vin. Voilà, je conclue, et il y aura le temps de quelques questions. Les noces de Cana constituent donc le premier des signes de Jésus. Hein, c'est l'autre aspect de cette conclusion donnée par Jean. Hein. Il y aura un deuxième signe dans la guérison du fils du fonctionnaire royal, à Cana de Galilée où il avait changé l'eau en vin, donc il y a bien le premier et le deuxième, mais encore un indice intéressant au niveau du texte, pardonnez-moi mais on fait un peu de grec et je crois que c'est utile, Jean parle de arken ton semeion, ça veut dire le principe des signes, arken, en arché, ça veut dire quelque chose, dans le commencement, dans le principe. Or, arché, hein, ça veut dire... C'est ça, c'est le principe. C'est pas uniquement le, qu'on appelle ça, le numéral, hein, le premier, deuxième, troisième, etc. Hein. On a quelque chose d'analogue au début du livre de la Genèse, hein, quand il est dit le emera mia, hein, en hébreu, yom echad. Hein, echad est très intéressant, parce qu'en hébreu, yom echad, jour, on va dire premier jour dans nos traductions. D'accord, premier jour. Yom Erad, Erad, ça veut dire, c'est le mot Erad qui veut dire un, c'est ce qui est dit de Dieu. Alors vous allez dire que Dieu est le premier, puis ensuite il y en a un deuxième, un troisième. Quand j'ai dit Adonai Erad, ça veut dire Adonai, Dieu est unique. Adonai Erad, Dieu est unique. Le jour unique de la création. Voilà, qui est traduit en grec, hein, avec cette idée d'unité. Hein. De la même manière, c'est le signe unique. Un principe, mais ça veut dire au sens où il rassemble tous les autres. Le jour du commencement, pour les Juifs, contient tous les autres. De la même manière, le signe de Cana contient tous les autres. Et j'allais dire, d'un point de vue très matériel, très concret, pour les parents, quand vous avez un enfant, quand il est le premier, il est l'unique. Tout simplement. Mais là, Jean, évidemment, va un peu plus loin en disant « Il demeure l'unique parce qu'il contient tous les autres, parce que ce sont des noces. Et que ce sont des noces que le Christ, par son incarnation, vient réaliser avec l'humanité. » C'est le seul moment où il y a des noces dans l'évangile de saint Jean, et le thème des noces est fondamental. L'alliance nouvelle, dont les noces sont la figure. Les jarres pleines d'eau sont la figure de l'ordre ancien. Le bon vin est le signe de la joie messianique qu'apporte Jésus, l'époux. On en a parlé abondamment tout à l'heure. Mais, et ça c'est tout aussi important que ce que je viens de dire, là je viens de vous parler de ce que Jésus accomplit, cette joie de l'alliance nouvelle, Jésus, l'époux, apporte la joie, magnifique, on trouve ça extraordinaire. Mais pour arriver à le comprendre, il faut être comme les serviteurs. On ne peut pas comprendre si on n'est pas comme le serviteur, si on n'obéit pas, c'est-à-dire si on n'entre pas dans une démarche de foi. Dans tout l'évangile de saint Jean, vous verrez comment les récits se terminent toujours par la question de la foi. Les Samaritains qui crurent, l'aveugle-né, qui est-il que je crois ? C'est moi, je crois, Seigneur. Et Jean termine son évangile en disant « Tout ce que je vous ai écrit, c'est pourquoi ? Parce que je voudrais que vous croyiez. » On ne peut comprendre l'évangile que s'il y a la foi. Et alors, dans ce cas-là, on se retrouve, je fais le lien avec le chapitre 3 qui va suivre, hein, Saint Jean-Baptiste qui dit « Moi, je suis l'ami de l'époux, je me tiens là, mais j'entends la voix de l'époux. » Voilà. J'entends la voix de l'époux. Il a reconnu sa voix, il a reconnu la voix de l'époux et il est prêt à y répondre. Hein, et telle est ma joie, hein, et elle est complète. Ouais. Jean est entré dans la joie des noces parce qu'il a reconnu la voix de l'époux. Voilà. Et c'est à ça que nous introduit les noces de Cana, dès lors que nous acceptons nous aussi d'entendre la voix, j'allais dire la voix de Marie, et bien davantage la voix de Jésus. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a la question du troisième jour, dont je n'ai pas parlé.
Oui, ça commence justement le test avec...
Voilà. Alors, le troisième jour, certains ont essayé de faire une sorte de... une semaine, la semaine de Saint Jean.
Je vois que, hein, tous les demain qui peut y avoir.
Oui, il y a tous les demain. Mais ça me fait, alors, je veux dire, rien ne me fait plus plaisir depuis tout à l'heure que je vois que beaucoup ont travaillé le texte avant, et ça, c'est la même chose que vous puissiez faire. On parle de la semaine inaugurale. Hein, la semaine inaugurale. J'en ai pas parlé parce que j'ai voulu rentrer dans le texte lui-même comme ça, mais et en réalité, ça a été pas mal remis en cause. Des exégètes disent que c'est un peu une construction qui est pas si évidente que ça. Ce qui est sûr, c'est que le thème du troisième jour est un thème, un motif dans l'Ancien Testament. Hein, c'est le troisième jour qu'il y aura le sacrifice d'Isaac. C'est le troisième jour que Dieu va apparaître, etc. Donc c'est un thème qui devient un thème pascal. Quand on dit « il est ressuscité le troisième jour », c'est-à-dire « Dieu va intervenir ». Voilà. Donc c'est une sorte d'épiphanie. Ça rejoint le thème de l'épiphanie. Voilà, les questions de Jonas. Alors, il y a les trois jours, il y a les trois jours, mais il y a le thème du troisième jour, si on est très...
Parce qu'en fait, on se demande à quoi ça fait référence avant.
Voilà, ben ça fait référence au récit de la... Il a quitté... Les jours qui ont précédé, il y a eu Jean-Baptiste qui a baptisé... Et puis, Jésus a commencé à constituer le groupe des apôtres, des disciples. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas, à partir de ce texte, justifier le fait de prier Marie pour obtenir...
Puisque... Alors, c'est une très très belle question. D'abord, Marie a bien un rôle. Et le rôle de Marie, c'est précisément, c'est pas de prendre la place de Jésus. Elle manifeste qu'elle ne prend pas la place de Jésus. Donc souvent, on dit ce qui théologiquement est peut-être plus juste, Marie prie pour nous. Marie, c'est une sœur, c'est la première. Elle prie pour nous, elle intercède pour nous. Mais il y a quand même l'intervention de Marie. J'allais dire de même que les serviteurs, c'est un peu comme la figure des saints. Leur foi... a permis, Dieu n'intervient. Enfin, il peut intervenir, mais il ne violente pas notre liberté, notre conscience. Donc, il intervient dès lors que j'ouvre mon cœur, ma liberté, ma volonté. C'est ce qu'ont fait les serviteurs. Voilà, comme les saints que l'on honore, et la Vierge Marie en premier, qui est intervenue, mais en sachant bien que c'est Jésus lui-même, c'est la puissance du Christ qui se déploie. Marie, en tant qu'elle intercède. Elle intercède, elle va faire comme ça au bras de Jésus. Voilà, et Jésus le suscite, ça. Parce qu'il veut que ses créatures participent. Voilà.
Et puis, le fait que les invités ne soient absolument pas au courant du...
Que ce soit Marie.
Le miracle.
Mais ça, c'est la discrétion de Marie.
C'est la discrétion de Jésus aussi.
Et de Jésus aussi.
Qui ne cherche jamais à se faire remarquer. D'ailleurs, quand le diable lui propose de faire des exploits, il refuse.
Il refuse. C'est tout à fait juste. Alors ici, c'est marqué même de façon encore plus forte... parce que je pense qu'il y a quelque chose que l'on aura de nouveau au moment de la résurrection. Personne n'était là pour voir Jésus ressuscité au moment de la résurrection. Et pourtant, on le voit ressuscité. On a goûté l'eau en vin, on l'a vu, on a mangé avec lui. Mais il n'y avait personne pour dire le moment. Il n'y a que le film, je crois, La Passion, je ne sais pas quoi, où on voit vous savez, le corps de Jésus, et puis il y a le linge qui se tombe comme un soufflet. Enfin, bon, précisément, les évangiles, ils sont dans une discrétion totale. Alors, d'un point de vue, pour le coup, une approche plus positiviste, c'est-à-dire en prenant le texte dans l'histoire, comment ça s'est passé, un exégète fait remarquer, pour revenir sur ce que dit Jacques, cette grande discrétion de Jésus. Il dit le miracle est authentifié d'autant plus que Jésus n'est pas connu comme un faiseur de miracles. Visiblement, le maître du repas et l'époux, j'allais dire charnel, réel, etc., ils ne connaissent pas davantage Jésus et pourtant ils attestent que c'est vraiment du vin. Donc ça donne une objectivité en disant ben, c'est vraiment du vin et du bon. Ils sont impartiaux. Donc c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Mais cette discrétion est tout à fait marquée. Marie, et, mais aussi Jésus, tout à fait. Une dernière... Oui.
Est-ce qu'on n'a pas un risque, si on tire trop le côté symbolique, avec il n'y a plus d'époux, c'est Jésus qui est l'époux,
oui,
etc., de glisser vers... Dans le fond, c'est un récit purement... c'est une parabole, en fait, c'est purement symbolique.
Oui.
Il n'y a pas de réalité, ni de miracle, ni d'effet, quoi.
Exactement. Toutes les questions, j'y remercie, parce que ça me permet d'aborder des choses très importantes. C'est une tentation réelle, qui existe dans tous ces courants d'exégèse. Vous avez eu ce qu'on appelle l'exégèse, la sémiotique, hein, l'école de Lyon. Il y a eu l'exégèse rhétorique, qui dit des choses très intéressantes, la rhétorique biblique, la rhétorique, etc. Et puis l'exégèse narrative, ce sont des méthodes littéraires. Aucune méthode et aucune approche littéraire d'exégèse ne permet de faire le tour du texte. Et il faut toujours tenir les deux. Il faut toujours tenir les deux. L'exégèse narrative, vous avez remarqué que j'y ai fait appel sur cette question de l'absence de l'époux, qui pose question. Le texte est construit d'une manière qui pose question. Mais, c'est une clé de lecture. Mais le danger, alors ça je vous mets en garde contre certains livres qui sont passionnants, mais qui suivent une approche ou une méthode, et qui prétendent tout vous dire dans cette approche ou cette méthode. Or, le texte excède ce que la méthode va vous dire. Les gens qui me disent c'est ça l'interprétation, je leur dis eh bien, écoutez, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Le seul qui connaît l'interprétation, c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint et c'est toute l'Église. Et c'est intéressant, il y a un livre que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture si vous intéressez à l'exégèse, et je vois que c'est le cas, un livre fondamental, pas forcément facile à lire pour un temps de détente, c'est l'exégèse, je vous ai mis la référence, l'interprétation de la Bible dans l'Église. Commission biblique pontificale. Un texte du magistère. C'est un texte du magistère, mais c'est aussi un peu comme un manuel, parce qu'ils font le point sur toutes les méthodes d'exégèse depuis un siècle et demi. Et ils abordent cette question. La seule méthode obligatoire quand on lit un texte, vous avez plein de méthodes, plein d'approches, ce qu'on appelle des méthodes et des approches, je ne vais pas rentrer dedans, voilà, c'est des différents types d'exégèse. Il y a une méthode qui est interdite et une méthode qui est obligatoire. Je vous résume tout de suite le livre. Vous dites, quelle est l'interdite et quelle est l'obligatoire? Le cœur bat très fort. Tenir l'haleine, je vous tiens en haleine jusqu'au bout. La seule qui soit interdite, c'est ce qu'on appelle l'approche fondamentaliste. Fondamentaliste. C'est-à-dire, c'est dedans, je l'applique directement. Voilà, je peux avoir le sens directement. Le fondamentalisme, c'est-à-dire, c'est dans le texte. Donc, c'est comme ça, hein, c'est marqué. Voilà, ça, ce document, l'interprétation de la Bible de l'Église, il dit non. Le texte demande à être interprété. Il demande à être interprété. C'est fondamental. Et je vois que autant il y a des groupes chrétiens un peu fondamentalistes qui lisent le texte comme ça de façon brutale, mais ça existe chez les cathos. Et je vous assure qu'entre nous, il y a des discussions. Ah, mais mon père, tata, c'est marqué, etc. C'est vraiment dans tous les styles. Donc, il faut faire très attention. Le texte demande absolument à être interprété. Et interprété en Église. Je ne peux pas prétendre, même le meilleur exégète ne peut pas prétendre avoir tout le sens du texte. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai mis Ephrem de Nisibe avec trois types d'approches qui s'interpénètrent les uns les autres. J'allais dire, logiquement, la seule méthode obligatoire, incontournable, je dirais plutôt, c'est la méthode, ce qu'on appelle la méthode critique, historico-critique, pour le coup, vous voyez, qui honore plutôt l'approche positiviste, c'est-à-dire en disant, je prends le texte, mais je vais poser des questions sur qui a écrit le texte, quels sont les manuscrits, tout ce que la critique peut apporter pour situer le texte à sa juste place. Voilà. L'approche narrative est une approche, la méthode narrative, mais qui n'excède pas et à certains moments qui n'est pas pertinente. Ce n'est pertinent que pour des récits, par définition. La narrativité, c'est pour des récits. Des psaumes, des textes de loi, c'est pas la narrativité. Vous voyez ? Et essayez de trouver ce document, il est passionnant. Il a été fait par, je vais terminer par là, par le père Vanois, qui est un des plus grands exégètes, qui était responsable de l'Institut biblique pontifical, et à côté de lui, ou derrière lui, il y avait un certain Joseph Ratzinger. Voilà. Et les livres sur Jésus, c'est vraiment, on voit qu'il possède toute cette réflexion sur l'exégèse critique, l'exégèse narrative, et on a besoin des deux. Et la remarque, ce que dit Marc, est tout à fait juste, et c'est une tentation aujourd'hui, dont on revient, on s'est un peu calmé, mais de dire finalement, il n'y a que le texte qui nous intéresse, il y a aussi évidemment un substrat historique qui est évident. Voilà, merci à vous pour votre patience. Et surtout, je vous rappelle, je m'en... Ah, oh, j'ai oublié. Il fallait que vous mettiez il fallait mettre son adresse et son adresse mail. Si vous pouvez passer pour en mettant votre adresse mail et lisez le texte de Saint-Jean, c'est ça le plus.